Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. On est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, business.
Alors, on en dit des choses tous les soirs. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors on a des chiffres qui sont tombés ce matin. Ouais, qui nous laissent penser que peut-être finalement l'Europe pourrait échapper à la récession cette année. On va vous donner tout ça, vous en jugerez par vous-même dans un instant, bien évidemment.
Et puis nous parlerons aussi du fait que la France ne va pas assez vite dans le déploiement de ses énergies renouvelables, que ce soit sur le solaire ou sur l'éolien. C'est d'ailleurs le seul État membre de l'Union européenne à ne toujours pas avoir atteint aujourd'hui les objectifs qu'elle s'était fixés pour 2020, malgré son imposante façade maritime notamment.
Évidemment. Et puis, un mot de nos invités ce soir, il y en aura deux, notamment le PDG de la compagnie Le Train. Vous savez, cette petite compagnie privée ferroviaire qui veut aller titiller la
SNCF. Ouais.
Sur le Grand Ouest, il sera avec nous dans 10 minutes. Et puis le patron de Carmat et ses cœurs artificiels, Stéphane Piat, qui viendra nous voir dans une heure et qui nous annonce qu'il sera à l'équilibre en 2027. Grande révolution pour Carmat. Tout ça plus bien d'autres choses, puisqu'on est ensemble évidemment jusqu'à 20h sur BFM.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc, comme quoi le pire n'est jamais certain, il y a quelques semaines, la récession dans la zone euro semblait absolument inévitable. Finalement, bonsoir Étienne Horry.
Bonsoir Guillaume.
Finalement, les chiffres qui sont tombés ce matin nous laissent penser que peut-être on pourrait y échapper, Étienne, finalement.
Oui, tout à fait. Un indicateur vient de valider ce changement de tendance. L'indice PMI de S&P Global pour le mois de janvier est repassé au-dessus de la barre des 50. L'activité de la zone euro a donc retrouvé une légère croissance après 6 mois de contraction. Les perspectives d'activité à 12 mois se sont nettement améliorées par rapport à décembre, indique le communiqué de S&P Global. La zone euro pourrait donc bel et bien échapper à une récession. Et Christine Lagarde était elle aussi montrée optimiste lors du Forum économique de Davos. L'année en cours ne sera pas brillante, mais bien meilleure que ce qu'on craignait. Et notamment parce que, je cite, les marchés du travail n'ont jamais été aussi dynamiques. En effet, le chômage s'est maintenu à 6,5% en novembre. Dans la zone euro, son plus bas historique.
Bon, on est un peu plus optimiste, mais il faut rester prudent parce qu'il y a encore quelques zones d'incertitude, Étienne.
Oui, tout à fait. Les deux locomotives de la zone euro, l'Allemagne et la France, naviguent toujours en eau trouble, toujours selon l'indice PMI. L'industrie allemande, est en récession et en France, l'activité est en repli. Prudence surtout, car dans une semaine, la Banque Centrale Européenne se réunit pour décider d'une nouvelle hausse de taux qui pourrait venir jeter un froid sur l'économie européenne.
On surveillera tout ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey? Est-ce qu'on s'est vu un petit peu trop noir par rapport à la situation pour vous?
Alors moi, je suis plutôt optimiste, puisque je pense que le pire, en effet, est derrière nous. Maintenant, il faut aussi réaliser que cette bonne tenue des chiffres, elle est principalement due aux massives mesures de soutien budgétaire des différents gouvernements. C'est quand même 700 milliards d'euros qui ont été apportés par les gouvernements européens pour soutenir les ménages et les entreprises. Eh bien, ces aides, évidemment, elles vont disparaître. Donc, il se peut qu'on passe d'un choc de l'offre à un problème de demande.
En tout cas, pour l'instant, les chiffres résistent, indique cite aujourd'hui ce que nous disent les indices européens, les fameux PMI Market. En France, la réforme des retraites, savait que la prochaine journée d'action est prévue pour le 31 janvier prochain. Sauf que la CGT Cheminots et Sudrail préparent déjà la suite. Ils ont proposé deux journées d'action les 7 et 8 février, puis une grève reconductible à partir de mi-février, à moins, bien sûr, ils l'ont précisé quand même, que le gouvernement ne renonce à son projet, bien évidemment. 18h04, je vous le disais, c'est pas une surprise, mais ça se confirme. La France est très en retard sur le déploiement des énergies
renouvelables. Bonsoir Raphaël Coudert.
Bonsoir Guillaume.
Très en retard, trop en retard même désormais d'après le baromètre Observer pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés à 4 ans. C'est ça le problème. Hein.
Oui, effectivement, la France est loin du compte. D'abord, concernant l'éolien, on atteint aujourd'hui une puissance installée d'environ 20 gigawatts. C'est 4 gigawatts de moins que l'objectif officiel fixé pour la fin de l'année 2023. Donc ce but, il ne sera pas atteint, affirme très clairement ce rapport. Même chose dans le photovoltaïque. La France devrait atteindre la 19 gigawatts de capacité solaire à la fin de l'année et elle raterait de peu cette fois son objectif de 20 gigawatts. Mais surtout, ce que souligne ce rapport, c'est que la trajectoire de progression de ces énergies renouvelables, elle est trop faible. Et si on continue à ce rythme, la France va s'éloigner encore plus de ses objectifs pour 2028. Deux points de blocage principaux, souligne le rapport. D'abord, il y a trop de complexité administrative. Et ça, c'est justement l'un des points que veut régler cette loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui est débattue actuellement au Parlement. Et d'autre part, il y a encore un défaut d'acceptabilité sociale des projets. Et ça, ça freine la progression. Les projets éoliens, ils sont par exemple systématiquement attaqués en justice aujourd'hui. Résultat, il faut entre 5 et 7 ans pour réaliser un projet éolien en France contre 3 à 4 ans en France.
C'est à peu près le
en Allemagne, pardon.
Ouais, par rapport à l'Allemagne, effectivement, on est sur le double. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Coudert avec nous sur BFM Business. On a quand même une bonne nouvelle en France. Il y a encore une très belle levée de fonds annoncée ce matin. C'est une start-up française spécialisée dans l'informatique quantique qui s'appelle Pascal, cofondée par le prix Nobel de physique 2022 Alain Aspect. Elle a levé 100 millions d'euros qui lui permettront de lancer de nouvelles applications concrètes en 2024. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
À la différence d'un ordinateur classique qui aligne les calculs les uns après les autres, l'ordinateur quantique les effectue tous en même temps, en une fraction de seconde. La start-up Pascal travaille tout particulièrement sur la technologie à base d'atomes neutres. Un laser va dompter les particules et ainsi les maintenir plus longtemps dans leur état de superposition. Une superposition qui permet justement d'effectuer les calculs simultanément. L'entreprise a déjà séduit plusieurs industriels comme BMW qui étudie la déformation des matériaux ou le Crédit Agricole dans la gestion des risques. Avec cette levée de 100 millions, Pascal prévoit d'augmenter sa production d'ordinateurs quantique, d'accélérer le développement de ces algorithmes. Les secteurs comme la chimie, l'automobile, l'aéronautique, la finance, dont les besoins en calcul sont immenses, salivent déjà en pensant aux gains techniques et financiers que pourrait leur apporter l'informatique quantique. Gestion de portefeuille, amélioration du design des avions, efficacité énergétique, une technologie qui donne déjà le tournis mystérieuse qui va encore nécessiter de très longues années de travail et donc des investissements importants pour rivaliser notamment face aux Américains.
Voilà, gros investissements dans le quantique, c'est français, c'est de la bonne innovation là, Audrey, clairement.
Oui, alors vous savez, en France, on a une avance extraordinaire dans le quantique par rapport aux autres pays européens. Maintenant, le souci quand même, c'est que les jeunes pousses françaises, elles sont tentées d'aller frapper à la porte des investisseurs étrangers. C'est ce que Pascal vient de faire en allant chercher de l'argent auprès du fonds souverain singapourien. Et donc, ça pose évidemment des questions de souveraineté nationale.
Effectivement, difficulté d'avoir accès à des financements français dans bien des cas aujourd'hui pour les start-up françaises. On en reparlera tout à l'heure dans le grand débat d'ailleurs. Aux États-Unis, gros plan social en vue chez 3M. Le conglomérat annonce qu'il va licencier 2500 personnes à travers le monde, en prévision, dit-il, de difficultés dues au ralentissement économique qui vont persister, précise le PDG. Dans la grande distrib, c'est officiel, Thierry Cotillard a été élu président des Mousquetaires, l'entité qui chapeaute notamment Intermarché. Il succède comme convenu à Didier Duhaupin. Thierry Cotillard qui entend, dit-il, déjà se concentrer sur le discount. Fin de citation. 18h07, grosse colère en France toujours de la filière betterave. Parce que vous savez qu'hier, Paris s'est rallié à une décision européenne qui interdit aux agriculteurs l'utilisation des néonicotinoïdes. Ces insecticides dont on a tant parlé. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Guillaume.
Et la filière le dit clairement, cette décision la met dans une situation absolument intenable, Pauline.
Oui, et cette filière des betteraviers se dit au pied du mur. Jusqu'ici, elle bénéficiait d'une dérogation pour utiliser les néonicotinoïdes et empêcher ainsi les pucerons de contaminer les betteraves avec la jaunisse. En 2020, alors que cet insecticide avait été interdit, la jaunisse avait fait des ravages, en moyenne près de 30% de la production partie en fumée. Les exploitations les plus touchées avaient perdu 70% de leur récolte. Et le problème, martèlent les agriculteurs, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune alternative efficace aux néonicotinoïdes pour lutter contre cette jaunisse. D'après le syndicat des betteraviers, les spécialistes qui travaillent sur ces alternatives estiment que c'est peu probable que cela voie le jour avant 2026, avec peut-être des débuts de solutions en 2024. En attendant, les betteraviers qui doivent semer dans un mois et demi réclament un engagement de soutien financier de l'État en cas de perte à venir à cause de la jaunisse, parce que derrière les 23 500 producteurs de betteraves français, il y a les industriels, 21 sucreries en France. La filière, c'est pas moins de 80 000 emplois directs et indirects. De la betterave, on tire du sucre, on tire de l'éthanol, on tire de l'alcool utilisé en pharmacie ou pour les spiritueux par exemple. Un marché estimé à 2 à 3 milliards d'euros. Le risque, d'après la FNSEA, le principal syndicat agricole, c'est de devoir importer. Et c'est toujours la même question qui revient, celle de la souveraineté alimentaire du pays.
Et bien justement, on en parlera avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera notre invitée tout à l'heure à 19h30 sur BFM Business. 18h09 en attendant. On va sur les marchés tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, encore du vert ce soir pour terminer la journée à Paris.
Encore, oui, puisque figurez-vous que sur les 10 dernières séances, vous avez eu seulement une séance dans le rouge. C'est pour dire quand même l'ampleur de ce début d'année qui est historique. On gagne toujours plus de 8% depuis le 1er janvier. Un CAC 40 qui est toujours au-delà des 7000 points. 7050 points ce soir au fixing. C'est une petite hausse de 0,26%. Avec, vous en avez parlé, des indicateurs économiques qui sont meilleurs que prévus en zone euro. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal d'économistes qui se disent que finalement, on n'aura peut-être pas de récession cette année. Et puis dans le même temps, aux États-Unis, vous avez des indicateurs également qui sont meilleurs que prévus dans le secteur des services. Donc ça permet aux indices actions de tenir avant, bien sûr, les publications d'entreprises. Ce soir, Microsoft, ça sera un temps fort. Et puis ensuite, jeudi, LVMH. Donc en attendant, on a des volumes d'échanges qui sont assez faibles sur ce marché actions. Du côté des valeurs, on peut quand même souligner Carmat, que vous recevrez dans une heure, qui perd plus de 3%, avec la MedTech qui annonçait qu'elle serait rentable à partir de 2027. Ça déçoit un petit peu le marché, qui se dit que pendant 4 ans, eh bien, l'entreprise ne sera pas rentable et qu'il aura peut-être besoin de se financer, donc peut-être de la dette supplémentaire. Inquiétude à court terme, un titre qui descend sous les 12 euros. Et puis à l'inverse, ça se passe très bien pour Swatch du côté de Zurich, avec la marque qui détient notamment Omega, Tissot ou encore Longines, qui voit un début d'année très prometteur du côté de la Chine avec la réouverture de l'économie. Et vous avez Swatch qui gagne quasiment 5% à Zurich en Suisse. C'est donc la bourse de Paris qui gagne 0,2% ce soir à la clôture, toujours au-delà des 7000 points, 7050 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. On a un Dow Jones là parfaitement à l'équilibre. C'est de faire plus stable, 33 634 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est quasiment stable aussi, 11 352 points. C'est très calme, on ira voir Sabrina dans une heure, bien sûr, du côté de New York. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Pour parler concurrence ferroviaire, Alain Gétraud, bonsoir, installez-vous, je vous en prie, directeur général de Le Train. Alors, bonsoir. C'est vous cette... petite compagnie ferroviaire privée qui a l'intention d'aller, alors, peut-être pas concurrencer la SNCF, mais au moins la challenger un petit peu sur...
Petite société, mais grandes ambitions.
Mais bien sûr, sur l'Ouest. Vous avez annoncé il y a quelques heures, donc, vous passiez une commande pour 10 trains à grande vitesse auprès du constructeur espagnol Talgo. C'est le Siemens français, Talgo, ou pas, en quelques mots, on peut résumer comme ça, ou pas?
Alors bonsoir. Alors Talgo, c'est une entreprise espagnole.
Oui.
Voilà. C'est pas une entreprise de la même taille que ce qu'on peut connaître en France comme Alstom, par exemple. Mais par contre, c'est une entreprise mythique. C'est une entreprise qui était le constructeur de la Puerta del Sol il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un retour en France finalement de ce matériel. C'est un matériel d'un haut niveau de technologie, c'est un matériel de qualité. Talgo, c'est un acteur qui est capable de s'adapter. S'adapter à un opérateur comme nous.
C'est parfait.
Mais alors, votre objectif, c'est donc d'apporter une offre qui soit complémentaire à celle de la SNCF, mais ça se joue sur quoi précisément? Est-ce que ça se joue sur les prix, sur la ponctualité, cette différence? Parce que je rappelle que vous proposez un Bordeaux-Angoulême en 40 minutes contre 1h10 en TER, et puis un Bordeaux-Nantes en 3h. C'est pas mal.
C'est donc le timing et la ponctualité, c'est ça finalement.
Alors finalement, et vous l'avez bien dit, c'est une offre complémentaire de la SNCF. Cette complémentarité, mais cette rupture finalement, elle s'exerce sur plusieurs champs, sur les destinations, sur les temps de parcours. C'est même moins que ça. Angoulême, c'est les 34 minutes, je pense.
Ah oui.
Voilà.
Attends, vous voulez les challenger ou être complémentaire de la SNCF?
Dans un premier temps, nous, notre ambition, c'est juste d'être complémentaire, bien sûr. C'est de plutôt opérer sur des destinations, sur des segments qu'opère peu ou pas la SNCF. Et en étant agile, en ayant une réflexion sur les villes qu'on dessert et puis en optimisant ses temps de parcours. Sans passer par Paris. C'est ça qui nous fait gagner du temps.
C'est ça qui vous fait gagner du temps.
un objectif à terme, peut-être, sur le nombre de passagers c'est quoi, c'est 3 millions de voyageurs?
Alors, comme toute entreprise, il y a un temps d'acquisition de clientèle. Donc, on démarrera sûrement sur un volume de passagers qui va avoisiner les 3 millions de passagers pour ce segment Grand Ouest. Et puis, bien sûr, cette acquisition de clientèle, elle devrait monter jusqu'à 5 millions de passagers.
Mais alors, avec combien de liaisons quotidiennes?
Alors, finalement, c'est 10 rames à nous permettre d'opérer 50 trains par jour, ce qui est structurant.
10 rames, c'est pas beaucoup. Enfin, on entend dire aussi que vous pourriez racheter des rames à la SNCF.
Alors, effectivement.
Mais qu'il y a un petit litige, parce que la SNCF dit qu'il y a de l'amiante dans certaines rames, donc c'est pas facile. Voilà, c'est quoi l'histoire exactement là avec la SNCF?
Alors, moi, je vais être ici ce soir pour célébrer quand même cette commande, ce qui est important, parce que 10 rames.
Ça vous aidera à grossir plus vite.
9. On aurait pu être présent peut-être avant, et l'acquisition de matériel d'occasion reste une belle opportunité. C'est pas un livre qu'on a complètement fermé avec SNCF ou avec d'autres acteurs. Effectivement, il y a des sujets d'équipement, c'est un peu technique, des sujets d'équipementalisation, il y a des sujets d'amiante.
On peut dire que la SNCF freine des cas de fer, sans mauvais jeu de mots.
Non, je ne me permettrai pas de dire ça, mais les processus sont longs. Ouais. Les processus sont peut-être plus longs que pour des entrepreneurs comme nous.
Mais la concurrence sur le ferroviaire, elle a quand même beaucoup de mal à émerger. Alors j'imagine que c'est dû au ticket d'entrée qui est très élevé, parce que forcément, s'équiper dans le matériel roulant, ça coûte cher.
Oui.
C'est ça le principal problème.
Voilà, vous l'avez dit, effectivement, le ticket d'entrée est lourd. L'entrée est élevée, c'est des assets lourds, c'est des assets compliqués à acquérir, les trains. Il faut un niveau d'investissement corporate élevé. Donc, forcément, pour des entreprises from scratch ou start-up, c'est un parcours un peu complexe.
D'où la question, est-ce qu'il doit y avoir des alternatives à la SNCF? Vous allez me dire oui, certainement. Est-ce qu'il peut vraiment y en avoir dans les faits? On voit bien, malgré tout, alors que la libéralisation du ferroviaire est en vigueur depuis quelques années, que ça décolle pas vraiment. Oui, il y a des initiatives du côté de Trenitalia, du côté de Renfe, on en a parlé la semaine dernière. Enfin, ça décolle pas très vite pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ça va s'accélérer dans les prochaines années?
Alors, ce qui est remarquable, c'est que finalement, la France est en train de faire la démonstration qu'il y a une envie, qu'il y a une capacité de nouveaux investisseurs, de nouveaux entrepreneurs à challenger le monde du ferroviaire. Oui. Puis la France ne va pas être quand même le dernier pays européen où il se fait jour de nouvelles compagnies. L'Italie l'a fait avec NTV, Italo. Oui. L'Espagne a été une formidable éprouvette d'expérimentation de l'ouverture à la concurrence, et on a des acteurs from scratch comme Irio, Ilsa, qui sont nés et qui aujourd'hui sont de vrais acteurs sur le marché.
Mais c'est intéressant cette comparaison avec l'Italie et avec l'Espagne, puisque ce sont deux pays qui ont quand même donné pas mal d'impulsion justement à la concurrence. C'est pas vraiment le cas en France.
La France a peut-être résisté un tout petit peu plus longtemps. On avait un opérateur historique qui fait beaucoup de choses, qui opère 14 000 trains par jour, ce qui est colossal. On n'a pas vocation à concurrencer la SNCF sur ces segments, qu'elle opère très bien, mais par contre à amener une offre complémentaire. On manque de mobilité bas carbone, on manque de mobilité en train en France. C'est quand même ça le sujet. Le sujet, c'est d'étendre la part de marché, c'est d'étendre cette part modale du ferroviaire.
C'est ça, c'est d'étendre la part du gâteau, effectivement. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics pourraient en faire plus pour impulser justement cette ouverture à la concurrence? Est-ce qu'on pourrait en faire plus?
Alors, le cadre juridique français, il est finalement assez bien fait en Europe. Il permet à des entreprises d'opérer en service librement organisé, en open access, et donc c'est un modèle volontariste. C'est pas au public de tout régir. Moi, je pense que les entrepreneurs peuvent s'emparer du sujet, elles peuvent être force de proposition pour opérer et proposer des offres. Et c'est ce qu'on va faire avec le train.
Ouais. Alors, votre calendrier commercial, si je me trompe pas, il a été quand même repoussé plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que vous avez eu du mal à vous mettre d'accord avec les deux banques qui sont entrées à votre capital, que sont Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Agricole?
Alors, pas avec ces deux banques, non, puisqu'elles nous soutiennent depuis longtemps maintenant, et depuis le début, elles sont entrées au capital dans cette volonté de dynamiser les territoires, et donc le train est un bel objet pour le faire. Par contre, ça n'y suffit pas, bien sûr, il faut agréger d'autres acteurs financiers, et c'est des temps longs. Le ferroviaire impressionne, c'est technique, c'est spécifique, et peut-être que la France, au niveau investissement, est un tout petit peu longue, peut-être qu'il y a d'autres pays où l'investissement est plus rapide.
Oui, peut-être qu'on ne veut pas trop déranger du côté de la SNCF, surtout dans les temps actuels, ça joue peut-être ça aussi quand même.
Je pense pas. Je pense que quand c'est nouveau, forcément, il n'y a pas de modèle. Donc, pour expertiser les modèles, il faut un peu de temps. Il faut aller chercher des expériences à l'étranger. Il n'y a pas de référence en France. Mais c'est en train de changer. On en fait la démonstration. Et cette capacité à acquérir 10 rames, je pense, est un bon démonstrateur.
Vous nous semblez bien modeste, parce qu'on a tous compris que les 10 rames, c'était pas une fin en soi, que vous alliez revenir à l'offensive, que vous vouliez doubler, que vous aviez plus d'ambition que de simplement titiller la SNCF sur le Grand Ouest. Vous voyez plus loin, franchement. Vous dites effectivement, il y a une part du gâteau et il y a un gâteau qui va s'étendre. Donc, vous voulez être de cette aventure-là, très clairement.
Alors oui, parce qu'il y a une position, un positionnement sur le marché qui est intéressant. Donc, acquérir juste Dirham pour convertir le Grand Ouest est une entreprise régionale uniquement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il y a déjà une surface minimum de marché à opérer pour être viable. Il y a une taille critique d'acteurs. Et donc, forcément, Dirham n'est qu'un début. Je nous le souhaite, j'espère. On a des plans de développement et on a vocation à étendre cette offre et à acquérir du matériel supplémentaire.
Et sur le prix moyen du billet, est-ce que justement, pour réussir à attirer ces 3 millions de voyageurs par an, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous allez proposer des tarifs plus attractifs ?
Alors là, par contre, il va y avoir compétition, même si on est sur des segments un tout petit peu différents de ce qu'opère la SNCF.
Elle joue déjà cette compétition, on le voit sur les prix de Trenitalia.
Exactement.
Sur Paris-Lyon, ça se voit, quoi.
Mais cette concurrence sur Bordeaux-Lyon a démontré ce qu'on appelle l'induction. C'est donc le trafic a augmenté. Les voyageurs sont plus nombreux à prendre le train. Donc, oui, on va challenger les prix, bien sûr. On va chercher un standing assez confort, à des prix très, très concurrentiels, accessibles pour tous, avec différentes gammes. On parlera pas de classe, mais on parlera d'ambiance. Voilà, on a complètement revisité l'intérieur du produit. On a une capacité à aussi embarquer des objets de loisirs.
On a vu ça. Il y a des vélos ou des planches de surf. On a vu.
Voilà. Alors un journaliste m'a dit.
Il n'existe pas la SNCF. Je le concède effectivement.
Pas encore.
Un journaliste m'a dit surfer friendly. Oui, surfer friendly, biker friendly. Effectivement, venez avec votre vélo, venez avec votre surf, venez avec votre objet de loisir. Vous êtes le bienvenu à bord de le train.
Ouais. Vous essayez de faire revenir les jeunes, notamment, qui sont de moins en moins adeptes au train aujourd'hui, au TGV. C'est un des objectifs, ça, clairement, pour vous.
Je pense que les jeunes aiment le train parce qu'ils sont engagés bien sûr pour la préservation environnementale et le train est un formidable outil pour le faire. Donc on a un positionnement qui est clairement loisir. Il doit séduire les jeunes, mais les moins jeunes. Et même quand on est business, est-ce que finalement c'est pas sympa de voyager dans un objet de loisir? Est-ce que c'est pas tendance? Et en plus, avec un objet bas carbone.
Bon, ces trains, donc, ils ont été commandés, ils seront livrés et ils commenceront à être lancés sur les rails en 2025. C'est ça l'objectif?
Alors, ces trains Talgo, effectivement, le délai de livraison, c'est un délai en 2025.
Ouais.
On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et de pouvoir être présent avant avec d'autres synergies industrielles et puis toujours ce volet détention de matériel roulant auprès des SNCF si ce sujet doit se débloquer.
Eh ben, on va suivre votre épopée. Vous qui vous êtes lancé quand même pour lancer une compagnie ferroviaire en 2020.
Il faut être ambitieux.
Il faut être ambitieux. C'était quoi, vous êtes dit, on va profiter de l'ouverture à la concurrence, on va profiter des faiblesses, des fragilités ici ou là de l'adversaire, de la SNCF. Lancer une compagnie ferroviaire en 2020, quand même, quoi.
Alors, c'est... Le cadre légal le permet. Alors la compagnie s'est même lancée en 2019, donc c'est aussi une opportunité de marché, il faut se le dire.
Bien sûr.
C'est un travail à la fois d'experts, c'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe quand même qui est composée de sachants. On a aussi une mixité dans les équipes, donc on s'est beaucoup inspiré de l'aérien, puisque l'aérien a très bien réussi cette ouverture à la concurrence, et donc il n'y a aucune
raison. Avec une mixité pas tout à fait parfaite, quand même. Dans le domaine aérien, en tout cas.
Oui, tout à fait. Alors, je souhaite que le ferroviaire réussisse mieux. Mais en tout cas, c'est une inspiration. Et puis, le train a le vent en poupe, si j'ose dire, parce qu'on volet environnemental.
Exactement.
Donc, on doit profiter cet élan. Et il n'y a aucune raison qu'on n'y parvienne pas.
Le timing est parfait. Merci beaucoup.
Pour les 10 prochaines rames.
Oui, absolument. Voire plus. Attendez.
Voire plus.
Non plus. C'est dit. Voire plus. Voilà. Bon, on l'a en tête. Merci beaucoup, Alain Gétraud. Merci de passer nous voir. Revenez nous voir avec plaisir pour nous raconter l'épopée de Le Train. Voilà. Qui va commercialiser ses dirhams dès 2025. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Merci.
Sur le plateau de Good Evening Business, 18h21.
C'est l'heure du débat, en effet, de Good Evening Business, Guillaume.
Ils vont arriver dans un instant.
Trois éditorialistes.
Avec un très beau programme aujourd'hui encore. Pas mal de choses à raconter, à débattre, voire plus si affinité, bien sûr.
À tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h25, c'est parti pour le débat de Good Evening jusqu'à 19h, évidemment, avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Audrey, Marc Toiti, bonsoir Marc.
Bonsoir.
Économiste, président du cabinet AC Défi. Léonidas Kalogiropoulos, bonsoir Léonidas.
Bonsoir.
PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Bruno Coquet qui va nous rejoindre, coincé dans les bouchons, ce sont les choses qui arrivent.
Il n'y a personne dans Paris en ce moment, je te dis ça.
C'est vrai ?
C'est vide.
Il arrive.
Petit sourire en coin. Il va arriver, Bruno, dans un instant. Pas mal de choses à voir avec vous, messieurs. Bien sûr, ce soir a commencé. Et Audrey, bien sûr, je vais vous lancer là-dessus, Audrey. Ces chiffres que nous a donné les PMI Market du jour qui nous disent que pour la première fois en l'espace de 6 mois, cet indice est repassé au-dessus de la barre des 50. Donc l'activité a retrouvé une légère croissance. Ce qui fait dire à ces auteurs que nous pourrions échapper à la récession. Est-ce que vous êtes optimiste, vous aussi?
Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Alors contrairement à ce que Marc va nous dire dans quelques instants.
Vous savez pas encore, j'ai pas parlé encore.
Mais je vous connais, Marc.
Non, pas du tout, moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste, mais réaliste.
L'économie, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle résiste beaucoup mieux que ce qui était prévu. Sur le continent, par exemple, la production industrielle, rien qu'en novembre, a progressé de 1%. En France, elle a bondi de 2,4% en un mois, alors que je vous rappelle qu'on s'attendait à une chute de 10% sur le dernier trimestre. Bon, on peut aussi souligner la vigueur de l'investissement, l'emploi dynamique, etc., etc. Maintenant, évidemment, il faut tempérer ça.
Création d'entreprise.
Création d'entreprise. Bon, maintenant, tout ça, on est d'accord pour dire que c'est aussi principalement dû, aux mesures de soutien financier apportées par les gouvernements européens. C'est quand même 700 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Ces aides, elles ne vont pas durer et il se peut peut-être qu'on passe d'un choc d'offres à un problème de demande.
Marc, est-ce que vous achetez le regain d'optimisme Christine Lagarde qui nous dit l'année en cours ne sera pas brillante mais bien meilleure que ce qu'on
craignait. Madame Lagarde disait il y a quelques mois encore qu'il n'y aurait pas d'inflation, que l'inflation c'était transitoire, que ça ne durerait pas. On disait que ça allait être les 30 glorieuses, rappelez-vous. Bon, moi je pense qu'il faut être optimiste.
C'est vous qui dites qu'il est optimiste?
Non, moi je suis de nature optimiste. Il faut être optimiste, mais il faut être réaliste également. Donc sur l'indicateur des directeurs d'achat que vous avez évoqué qui est sorti à l'instant, on est à peine au-dessus des 50 après 6 mois, donc sous effectivement, donc en baisse d'activité. Une hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit. En France, on est à 49 sur l'indice composite, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité, malgré justement toutes les aides qui ont coûté des milliards. Donc, c'est que moi, je préfère avoir des bonnes surprises que plutôt justement avoir des mauvaises surprises. Donc, il faut être aujourd'hui extrêmement prudent. On a effectivement une petite récession qui est heureusement pas si grave que prévu. Par contre, il y a les taux d'intérêt qui ont quand même beaucoup augmenté. Oui. Ça va jouer effectivement sur l'investissement, sur l'immobilier. Donc, il faut être extrêmement prudent de ce point de vue-là. Et surtout, Audrey l'a bien dit, on a augmenté la dette publique. Et il y a un chiffre qui est sorti hier, qui est assez incroyable. C'est que c'est les chiffres Eurostat harmonisés sur la dette publique du troisième trimestre. Dans tous les pays de la zone euro, la dette publique par rapport au PIB a baissé. Tous, sauf
la France.
Voilà, magnifique. Sauf la France. Donc nous, on continue, effectivement, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il coûte cher. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont plus à 0%, ils sont entre 2,6 et 3%. Donc ce qui fait qu'il faut être prudent par rapport à ça. Donc moi je suis bien sûr pour sauver la France. D'ailleurs si je suis toujours là, c'est qu'effectivement on a envie de sauver la France. Mais maintenant il faut faire attention à ne pas s'endormir sur les lauriers. Il y a quand même beaucoup de dangers, notamment sur l'inflation. Donc il faut rester extrêmement prudent.
Une minute à peine avant la pause, on y retourne. Mais est-ce que le patron que vous êtes est optimiste?
Je ne crois pas en l'économie, je crois aux entrepreneurs. Je pense que la dynamique entrepreneuriale de notre pays est absolument exceptionnelle et qu'elle arrive à surmonter les obstacles. Avec des aides, mais les créations d'entreprises, c'est vertigineux, c'est un phénomène de société au moins autant qu'un phénomène économique, que les innovations sont spectaculaires, que les levées de fonds, on en aura un certain nombre.
On va en parler tout à l'heure.
C'est phénoménal. Et tout ça apporte un dynamisme à notre pays. Et derrière les créations d'entreprises, il y a des créations d'emplois. Il y a un taux d'embauche qui est absolument invraisemblable. La machine ne s'arrête pas. Et ça, c'est les Français, sont les entrepreneurs, beaucoup plus que les gouvernants.
Allez, pause, on va revenir sur cette thématique. On parlera de cette grande levée de fonds, effectivement, qui a été annoncée ce matin dans le Quantique avec Pascal.
Eh oui, 100 millions d'euros.
100 millions d'euros, oui, vous aurez un discours, notamment l'INAS, halte au discours sur le déclinisme français. Bon, on demandera à nos amis, à Marc et à Bruno Coquet, qui va arriver des bouchons, ce qu'ils en pensent. Tout ça plus bien autre chose, on est ensemble jusqu'à 19h pour le débat, bien sûr.
À tout de suite.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business. Le grand débat repart dans deux minutes. D'abord, c'est Faïza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actu. Bonsoir Faïza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. L'Europe va-t-elle échapper à la récession cet hiver? En tout cas, le dernier indice PMI Flash montre la résilience de l'économie en zone euro. L'activité a renoué avec la croissance en janvier après 6 mois de contraction. L'indice PMI composite, synthèse de l'industrie et des services, a progressé de 0,9 points à 50,2. C'est la première fois qu'il repasse au-dessus du seuil critique des 50 points depuis juin. Toutefois, les nouvelles commandes à l'industrie ont continué à chuter. En France, la mobilisation continue de s'organiser contre la réforme des retraites. Cette fois-ci, c'est la CGT, Cheminots et Sudrail qui envisage une grève reconductible à la SNCF dès la mi-février. Et ça devrait commencer par 2 jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Une semaine avant la mobilisation nationale, ils appellent l'ensemble des autres secteurs à se joindre au mouvement pour élever, disent-ils, leur rapport de force. La France n'en fait pas assez en matière d'énergie renouvelable et va passer à côté de ses objectifs à fin 2023, d'après le baromètre d'Observeurs. Que ce soit dans l'éolien ou dans le solaire, la production d'électricité renouvelable ne progresse pas assez rapidement. Pire, le pays s'éloigne de ses objectifs pour 2028. Alors, il y a deux principaux obstacles. Un, la complexité administrative pour lancer ces projets. Et puis, l'opposition aux installations éoliennes qui sont systématiquement attaquées en justice. Dans l'actualité des entreprises, BNP Paribas veut diviser par 5 ses financements au secteur de la production pétrolière d'ici 2030. Objectif, les faire passer de 5 à moins d'un milliard d'euros. La banque veut aller plus loin que ses précédents engagements. Mais le raffinage et le gaz ne sont pas concernés par ce nouvel objectif. Troisième, va supprimer 2500 emplois après avoir annoncé une baisse de ses ventes et de ses bénéfices trimestriels. Impacté par le ralentissement de la demande et par l'inflation, son chiffre d'affaires a baissé de 6% à 8 milliards de dollars au quatrième trimestre et devrait encore reculer cette année. Après Bob Dylan ou Bruce Springsteen, c'est au tour de Justin Bieber de vendre les droits de son catalogue musical, soit quasiment 300 titres sortis avant 2022. Le chanteur canadien les a cédés à la société Hypnosis pour 200 millions de dollars. Le Thalys, c'est bientôt fini. Bientôt, nous monterons à bord de l'Eurostar pour aller de Paris à Bruxelles ou Amsterdam ou Cologne. Le train Thalys va changer de nom pour être exploité sous la marque Eurostar dès l'automne prochain. Eurostar, qui est une marque jugée plus connue et plus populaire que Thalys.
Merci beaucoup, Faïza. 18h33, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h.
Good evening business, le débat.
Allez, c'est reparti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov, avec Marc Touati, avec Léonidas Kallogiropoulos et on accueille Bruno Coquet qui a bravé le bouchon parisien. C'est tout un art. Hein. Oui. Docteur en économie, expert associé à l'OFC. On va parler de cette levée de fonds de Pascal. Juste, vous voulez dire un mot sur le chômage?
Non, mais je voulais simplement rebondir en effet sur le dynamisme des entreprises dont parlait Léonidas et donc sur le dynamisme du marché de l'emploi. Il faut quand même rappeler que le taux de chômage dans la zone euro est tombé à son plus bas niveau historique en novembre dernier, c'est-à-dire 6,5%.
Oui. Les chiffres restent bons, quoi qu'on en dise. Alors, puisqu'on parle d'entreprise, on a une belle qui nous a fait une belle actualité ce matin. Grosse levée de fonds dans la deep tech. Pascal, PASQAL, la start-up informatique quantique, cofondée, vous savez, par le prix Nobel de physique 2022, qui a levé 100 millions d'euros avec tout un lot d'applications concrètes qu'on pourra voir très prochainement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette levée de fonds?
Alors, ce que ça m'inspire déjà, c'est que ce qui se passe dans le quantique, c'est quand même assez passionnant. Hein. C'est assez similaire à ce qui se passait dans les années 60 dans le spatial. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup de courses technologiques dans lesquelles la France est quand même complètement hors jeu. Et là, pour le coup, c'est pas le cas parce qu'on a une véritable avance en Europe. On est le pays d'Europe justement qui a le plus grand nombre d'acteurs dans le secteur. Si bien que McKinsey annonce que la French Tech pourrait peser 1000 milliards de dollars justement dans le quantique d'ici 2035.
Quantique, ça fait saliver des secteurs comme la chimie,
non mais pardon, je vous attends un petit arrêt sur l'image si vous permettez parce que je connais tous les défauts de notre pays qui amènent certains à dire que l'on va au naufrage, notamment notre faiblesse en mathématiques. Et notre faiblesse en mathématiques est une réalité avec un certain regard sur nos élèves et notre formation. Mais en parallèle, nous avons une formation experte en mathématiques qui est exceptionnelle. Et ça donne les résultats que l'on a là. Donc ce sont des phénomènes contrastés. Et dans ces phénomènes contrastés, lorsque l'on parle de la France qui va être la terre, j'allais dire, promise pour ces développements-là, ça fait partie de nos atouts. Alors bien entendu, on peut regarder de manière
omnibulée. Je sens que vous êtes parti pour un discours anti-décliniste.
Si oui ou non, le baccalauréat retient les maths pour tous à partir de la première. Mais cette réalité-là, c'est notre réalité de notre pays et c'est une réalité qu'il faut regarder parce qu'elle va créer des emplois, de la richesse et effectivement une avance technologique pour laquelle la France sera moteur.
Vous avez envie de dire ce soir, c'est le titre de cette partie débat, halte au déclinisme, discours décliniste ambiant. C'est ça, Léonidas, en gros ?
Je pense qu'on ne peut plus entendre que parce qu'on aurait des faiblesses que l'on a, il faut les regarder avec objectivité et on sera d'accord avec Marc Touati sur ce sujet-là. Nos faiblesses, il faut les combattre. D'ailleurs, il faut des boîtes, généralement, pour les combattre, des solutions d'entreprise. Mais nos faiblesses ne justifient pas d'entendre partout, à travers une certaine presse, que la France serait un naufrage, la débâcle, la décadence, à peu près tout le vocabulaire
de la défaite militaire. Non, mais là, dans ce secteur, militaire. En l'occurrence, on a plus de force que de faiblesse.
Non seulement on a plus de force que de faiblesse, mais j'aimerais bien savoir quel est l'entrepreneur, parmi le million de nouveaux entrepreneurs par an, oui. qui, devant les faiblesses que nous connaissons tous, se dit « je vais baisser les bras et je vais arrêter ». Au lieu de ça, ils prennent les sujets à bras-le-corps, ce magnifique mot « entreprendre » qui veut dire « prendre en main », et effectivement, on va à la bataille. détails. Et pas, c'était bien les années Pompidou, c'est terminé, c'est insoutenable.
Bruno Coquet, vous avez envie de dire, vous aussi, alto discours décliniste en France, finalement, à l'aune de ce genre d'annonce, comme celle qu'on a eue ce matin autour de Pascal, finalement, vous êtes...
Il y a du déclin, faut regarder les choses de manière réaliste. Depuis le début des années 50, hein, c'est le maximum de l'empire colonial, la France décline. On a perdu l'Indochine, puis l'indépendance des colonies africaines, l'Algérie, etc. Donc du coup, en termes, on pesait 10% des surfaces immergées de la planète en 1950. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est, mais c'est beaucoup moins. 5% de la population mondiale. Donc de ce point de vue-là, on décline. Après, il faut savoir comment on compense. Donc, qu'est-ce qui remplace ce qui décline ? Donc, dans un premier temps, ça a été le plan Marshall, les plans gaulliens, etc., d'industrialisation pour le coup. Parallèlement, et de plus en plus, ça a été l'Europe qui a servi de base d'expansion, puis la mondialisation. Et donc, qui nous a, dans un premier temps, donné un certain nombre de marchés sur les bases qu'on avait construites. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair. D'abord, on se porte quand même un peu moins bien que l'Europe. Quel que soit le secteur, on a cette image où, effectivement, ça va très bien sur le marché du travail, ça va mieux que jamais, sur plein d'indicateurs de croissance également. Mais néanmoins, quand on regarde la zone euro ou plus largement l'Union européenne à 27, on voit bien qu'on n'est pas les premiers de la classe, loin s'en faut, et parfois, les derniers, le déficit budgétaire, hein, mon sujet préféré. Donc du coup, il faut quand même regarder ça avec objectivité, ça va pas bien sur bon nombre d'aspects. C'est d'ailleurs ce qu'on nous explique pour la réforme des retraites, hein, qui va venir plus tard. Et donc, du coup, qu'il y ait des investissements de cette nature dans des secteurs high-tech, etc., c'est une super bonne nouvelle. Après ça, nier qu'il y a un déclin industriel en particulier, c'est quand même un problème.
Marc Toiti, vous dites que c'est l'exception qui confirme la règle, ce qu'on nous annonçait ce matin.
Non, ce que j'évoquais tout à l'heure, on se doit d'être optimiste, mais il faut être réaliste également. Et c'est vrai qu'on a cette situation, si on prend simplement le PIB par habitant et le positionnement au niveau mondial, on était effectivement, dans les années 90, on était 12e du monde, chiffre du FMI, hein, en PIB par habitant, donc en richesse par habitant. Là, on est 26e, entre la 24e et la 26e place. Donc, évidemment, il y a eu ce problème, parce que malheureusement, on n'a pas fait assez de croissance, pas fait de dynamisme économique, mais par contre, là où je suis d'accord avec Léonidas, c'est qu'heureusement qu'on a nos entreprises. Parce que c'est là la différence.
Donc on aura des boîtes.
Non, mais c'est qu'on a effectivement une dynamique entrepreneuriale qui est là en France, tant mieux, bien entendu, donc qui génère cette dynamique. Tout le problème, c'est que ce ne sont pas les entreprises françaises qui ne sont pas compétitives. Au contraire, moi, je pense qu'elles sont même plus compétitives qu'ailleurs. Parce qu'elles ont beaucoup de contraintes qu'on n'a pas forcément ailleurs, en Allemagne ou dans d'autres pays. Et en plus, il y a très peu de croissance. Hein. Quand vous regardez les chiffres de croissance annuelle moyenne depuis 2007, on est à 0,7% de croissance hors inflation par an. Et malgré ça, on arrive à s'en sortir. Donc, tout le problème, c'est qu'effectivement, les entreprises ont fait le job, je termine, mais qu'on a effectivement ce problème de modernisation de l'ensemble de notre économie. Et juste pour terminer, il y a un chiffre qui m'interpelle. On n'en parle pas trop, mais c'est quand même assez important, c'est l'indice INSEE de confiance des ménages. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la force d'un pays ? C'est sa classe moyenne. Et c'est la confiance de ses citoyens, finalement. Et donc, que voit-on ? Aujourd'hui, on est quasiment sur des plus bas historiques de confiance des ménages. Même, vous voyez, on avait dit l'effet Coupe du Monde au mois de décembre, vous souvenez, on en avait parlé. Alors, l'enquête a été menée. Avant la défaite, eh bien, en décembre, la confiance a quand même baissé.
Non, mais j'aimerais citer un autre indice, Marc. Alors, à ce moment-là, on peut aussi parler de l'indice Sentix qui lui mesure la confiance des investisseurs dans la zone euro, qui a augmenté en janvier pour le troisième mois consécutif.
Dans la zone euro, mais des entreprises.
Le moral des ménages, il a raison.
C'est ça qui est dangereux, c'est qu'on ne va pas de concert.
Alors,
et donc, avec la réforme des retraites aujourd'hui, où malheureusement, il y a ce risque sociétal. Et donc, c'est là où on a peut-être, il faut repenser un petit peu notre modèle.
Léonidas.
Pourquoi est-ce que les investisseurs du monde entier choisissent plutôt la France pour investir en Europe que les autres pays ? La France est le premier pays.
La France est un pays formidable.
Mais pardon, non seulement c'est un pays formidable,
évidemment, mais ça, on remet
si
pas
on
en cause.
Parle des déséquilibres sociaux, du mécontentement, de nos déficits, de tout ce que l'on veut, ils devraient aller ailleurs. Pourquoi ils viennent en France ? Quelle est la manière de Quelle est la manière de voter pour un pays autrement qu'en investissant ? Quelle est la marque de confiance la plus qui serait supérieure au fait de mettre de l'argent, de l'épargne, des projets dans un pays en se disant là ça va prospérer ? Et ça c'est passionnant parce que de ce point de vue-là, c'est juste le plébiscite de tous les jours qu'est une nation. Ce que Renan disait à propos des définitions d'une nation. Au regard des investissements et des entrepreneurs qu'il y a dans notre pays, la France est une locomotive.
Alors Audrey.
Non mais pour rebondir rapidement justement sur ce que Bruno disait, sur comment est-ce qu'on compense justement ce déclin industriel auquel vous me faisiez référence. Vous savez, la cinquantaine de PME et de start-up en France qui est justement dans ce secteur dont parlait Guillaume en préambule, elles ont quasiment toutes à leur tête des doctorants. Et ça, c'est très rare. Et les passerelles, en fait, entre la recherche et la tech, on les doit aussi d'ailleurs à la loi Pacte qui a vraiment élargi les possibilités pour les chercheurs de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en ce sens, la France, vraiment au niveau de l'accompagnement des chercheurs vers la création d'entreprises, c'est un vrai paradis. Et ça,
Laissez Bruno répondre.
Non, mais je suis d'accord avec ça. Tout ça, c'est positif, c'est très bien, mais c'est petit pour le moment. Donc c'est petit, ça va pousser, il faut l'arroser, en prendre soin, il n'y a pas de doute là-dessus. Où est la masse ? La masse, elle se voit dans les prélèvements obligatoires, dans la masse des transferts, dans l'état des finances publiques, dans l'écart par rapport aux autres pays européens. Donc, du coup, tout ça, il n'y a quand même pas que des bonnes nouvelles et il faut s'en occuper. Bien sûr, on a notre soleil, et des start-up comme ça qui sont créées, ou même des start-up qui deviennent grandes, comme Free, ou des choses comme ça. Mais quand même, on traîne tout un tas de choses qui ne vont pas du tout à un modèle sociétal, comme le disait Marc à l'instant. Mais quand même, faut s'en soucier.
Non, mais c'est bien sûr. Mais alors à ce moment-là, si on parle du côté des investisseurs et pour donner un exemple qui n'est pas petit, l'écosystème du capital risque, lui, il s'est vraiment, structuré, notamment avec la BPI qui a lancé, Quantum Nation en 2018 et qui est devenu le fonds le plus actif au monde, justement dans les technologie quantique. Donc, ça, c'est quand même énorme.
Mais non, mon discours c'est formidable. Le point, c'est moi, j'aime beaucoup les ânes, donc on a un âne pour tracter une charrette gigantesque dans laquelle il faut faire quelque chose. Il faut s'en occuper aussi. Notre âne, il est compétitif, il est très beau, on l'adore. Mais est-ce qu'il va arriver à démarrer ? Il y a un problème de couple au démarrage, comme on dit en mécanique, et donc là,
Marc,
je pense surtout qu'il ne faut pas être manichéen. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous pour la France. On est tous pour sauver la France. C'est le vrai enjeu. Et on l'oublie
pour
souvent.
Pour la célébrer, déjà.
Non,
pour
la sauver, c'est ça, bien entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des éléments qui ne vont pas, justement, qu'on n'aime pas la France. Bien au contraire. Parce qu'on a envie que ça s'améliore. Et moi, je rappelle un chiffre qu'on ne dit pas assez. C'est qu'aujourd'hui, les dépenses sociales en France, c'est 32% de notre PIB. Alors que la moyenne de l'OCDE, donc les pays riches, c'est 20%. Donc quand on me dit que la France est ultra-libérale, je dis, vous voyez bien que la France, moi je peux en parler, je viens des cités HLM d'Orly, donc j'en ai bénéficié de ces dettes sociales. J'ai réussi à m'en sortir, sauf qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 60% de taux de chômage des moins de 25 ans dans les cités HLM, je me dis, quelle est la perspective ? Donc c'est ça l'enjeu. C'est pas parce qu'on dit que la France c'est pas le top qu'on fait du French bashing. On aime la France, on veut que la France s'en sorte, mais il faut pas être manichéen. C'est-à-dire que il y a bien sûr des succès, mais il faut faire attention parce que moi, c'est 25 ans que je vois les dirigeants politiques français. Et si on leur dit pas un petit peu, faites attention, ils se laissent aller. Et donc, on ne prend pas les bonnes mesures.
Juste un mot d'abord, Marc. Je pense que le discours défaitiste, il existe et ça, c'est insupportable. Mais on est d'accord à l'évidence.
C'est pas le nôtre, en tout cas.
Il y a manifestement quand même une véritable mutation de la France. On est dans une mutation où on s'attendait peut-être à avoir quelques champions d'entreprises publiques. Peut-être que c'était ça la vision que l'on pouvait en avoir. Il s'avère aujourd'hui, il suffit d'écouter BFM Business d'ailleurs, je crains que mon optimisme vienne de mes mauvaises écoutes matinales. Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire, la vérité qui passe à travers les écrans radars d'une grande partie de nos concitoyens, c'est qu'on leur dit toute la journée qu'il y a des choses désastreuses. Et toute l'herbe qui pousse, elle pousse dans le silence.
Mais Bruno va vous dire qu'il n'y a pas l'effet masse.
Mais c'est l'effet masse. 1 million d'entreprises. Vous avez un autre pays au monde qui
Bruno, est moi, si on va à la
de création d'entreprises de cette ampleur-là ?
Non, mais en clair, on a tout un tas de problèmes qu'il faut régler. Et du coup, notre âne pourra démarrer brillant et voilà.
On pourra le voir. C'est mieux qu'un âne, peut-être.
Mais non, moi j'attends les ânes. et puis, ça
va loin, les ânes.
Mais le point, c'est que il ne faut pas mésestimer les problèmes qu'on a réglés, surtout qui nous distinguent de nos voisins européens. Et ça, c'est quand même un problème. Qu'on ait reculé par rapport à la Chine ou l'Inde, ok. Mais par rapport à nos voisins européens, c'est vraiment.
Audrey.
Non, alors moi, mon souci. Enfin, je pense qu'il faut surtout être vigilant à la souveraineté nationale sur les sujets tech dont on vient de parler, parce que c'est vrai que les jeunes pousses françaises, elles sont quand même très séduites par les investisseurs étrangers, parce que Pascal, en fait, il a été chercher l'argent où ? Il a été chercher l'argent à Singapour.
Oui.
Voilà. Et donc, il faudrait absolument peut-être que les industriels français, d'ailleurs, soutiennent l'effort collectif en se rapprochant justement de ces start-up et de ces PME.
Allez, on marque une petite pause. On vient dans 2 minutes, même pas. Ça va aller très vite.
Ça va être très court.
Oui, ça va être court. Et on parle de quoi ? De la France qui accentue son retard retard dans le déploiement des énergies renouvelables. Dixit, un rapport qui est sorti aujourd'hui. On va en parler un petit peu dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h49, encore quelques minutes avec Audrey Tcherkov, Marc Touati, Bruno Coquet, Leonidas Kalogiropoulos. Alors, c'est un rapport d'observeur qui tombe tous les ans, qui nous confirme ce qu'on savait déjà, mais enfin, ça nous saute aux yeux. Nous sommes en retard sur le déploiement des renouvelables. Nous devions être en 2023 à quelques 23% du mix énergétique. On est à moins de 20% aujourd'hui. Malgré notre immense façade maritime, Audrey.
Non, peut-être alors,
le paradoxe, finalement.
Oui, mais moi, je pense qu'on est en retard de rien du tout. Vous savez qu'en Europe... Attendez. En Europe, la France est le pays le plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a émis, en 2020, 100 grammes par kilowattheure. OK ? L'Allemagne, elle en a produit combien ? 500. Et l'Allemagne, donc, a le record du nombre d'éoliennes en Europe, et donc elle a aussi le record d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Et la Commission européenne, elle veut faire quoi ? Eh bien, elle souhaite condamner la France pour une amende de 500 millions d'euros, parce que justement, on est en retard sur nos éoliennes. Mais c'est l'Allemagne qu'il faut pénaliser par rapport à son mix énergétique.
Mais vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on a le nucléaire. Le nucléaire, c'est 40% du mix énergétique français. Oui. Donc c'est ce qui fait qu'on est sauvé.
Non, mais bien sûr, Marc.
Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'heureusement qu'on a cela. Alors que l'erreur des Allemands, ça a été justement de dire on arrête complètement.
Les renouvelables,
c'est bien beau, mais ça n'a pas permis justement de compenser. Et donc, ce qui fait que derrière, voilà, et maintenant, ils ont
le gaz, maintenant le charbon.
Moi, je suis d'accord avec vous, effectivement. Je pense que, encore une fois, c'est que on
ça
a
fait beaucoup, Marc.
Ça fait beaucoup, mais c'est vrai, mais bon. C'est que on a, je veux dire, aujourd'hui, la France, elle a fait son boulot, mais heureusement qu'on a le nucléaire. Donc, moi, je ne pense pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, effectivement, on consolide, puis après, on voit si on peut arrêter soit le nucléaire ou autre, mais ça c'est quand même notre force.
Le
on
revient premier parc éolien offshore est produit que depuis quelques semaines.
C'est ce que je dis, justement.
Mais pardon.
Mais
c'est de l'investissement de long terme.
Notre nucléaire de renouvelable et le problème serait réglé. Parce que l'histoire des renouvelables, c'est pas de savoir si ça s'appelle renouvelable ou pas renouvelable. La question est de savoir si ça émet du CO2.
Ouais.
C'est
voilà,
une stupidité absolue. Et j'ose espérer que la France va se battre pour que les critères soient rationnels et pas des critères bureaucratiques comme ceux qui finiraient par nous faire condamner. Ça, c'est une absurdité. Et là, véritablement, enfin, on a un bilan carbone qui est excellent, probablement l'un des meilleurs du monde. On ne va pas être sanctionné en ayant le meilleur bilan carbone du monde.
Ce sont les objectifs que la France s'était elle-même fixés, s'était engagée à tenir auprès de Bruxelles.
Oui, mais les objectifs qu'on s'est fixés à nous-mêmes ont été fixés notamment dans une équation politique dans laquelle, à l'époque, on se condamnait même, on se tirait une balle dans le pied de notre propre nucléaire. On a corrigé le tir depuis, heureusement, et j'ose espérer qu'on va arriver à corriger le tir juridiquement
de cette
absurdité.
Là, pour le coup, on est bon sur le niveau, mais on progresse peu.
Oui.
Et le point, c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin de la Commission européenne pour savoir qu'on ferait mieux de mettre un peu plus de panneaux solaires, d'éoliennes, enfin, de progresser indépendamment des objectifs européens par rapport à une base qui est bonne grâce au nucléaire, comme le disait Marc. Mais moi, je crois pas. Je crois qu'on pourrait progresser indépendamment des coups de tric de Bruxelles, voire des amendes, parce qu'on paye quand même des amendes. Hein, faut quand même
d'ailleurs, ça va pas améliorer.
Et donc, du coup, effectivement, on n'est pas mauvais sur ce point. La France est plutôt bien, mais on pourrait progresser plus de nous-mêmes. Enfin, on voit bien.
Ça n'améliore pas l'image de l'Europe. C'est à chaque fois on dit c'est à cause de l'Europe. Comme il faut baisser la dette publique, c'est à cause de l'Europe. Non, mais encore une fois, c'est
le père Fouettard.
C'est ça le vrai enjeu.
Ça, c'est aussi le coût de l'intégration des véhicules thermiques en 2035.
Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a pas effectivement cette image positive de l'Europe, et ça va pas s'arranger effectivement. Mais si on doit réduire la dette publique, c'est pas pour l'Europe, c'est pour nos enfants. Si on doit faire effectivement évoluer notre mix énergétique, c'est aussi pour nos enfants. Et c'est une volonté d'un autre point, mais il faut que ça fonctionne de ce point de vue-là. Et donc, la France est sauvée, encore une fois, grâce au nucléaire.
Il y a quand même un sujet sur la complexité des procédures administratives. Fois plus de temps pour ouvrir un parc éolien en France par rapport à l'Allemagne, quand même.
Guillaume Poitrinal avait écrit un magnifique livre qui s'appelait La France est malade de son temps. Ça fait partie des choses qu'on doit corriger. Il y a un texte de loi qui est en train de sortir, d'ailleurs, qui simplifie la totalité de ces procédures. Mais il faut aussi rappeler que l'une des raisons pour lesquelles on est en retard, c'est que toutes les procédures de recours sont utilisées par toutes les associations localement. Il y a systématiquement des recours devant les tribunaux, systématiquement on va au maximum du maximum des procédures d'appel, et donc forcément ça ralentit le tout. Et comme il y a une mauvaise réceptivité devant l'éolien ou terrestre ou le solaire, effectivement tout ça se ralentit.
On a un problème d'avion de chasse, je crois, parce qu'il y a tout un tas de zones qui ne sont pas éligibles aux éoliennes à cause des avions de chasse. Cela dit, quand on va en Espagne, il y a plein d'avions de chasse de l'OTAN aussi, et pour autant, il y a des éoliennes partout.
Non, mais le sujet des éoliennes, enfin, il est quand même assez complexe, parce que justement, si on en revient à mon exemple favori, qui est est l'Allemagne. Dans son mix électrique, elle couple les éoliennes au gaz et au charbon, puisque évidemment, quand on n'a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Et donc, au-delà d'émettre des effets de gaz à effet de serre, l'Allemagne, elle pollue le ciel européen tous les jours avec du mercure, de l'uranium, et ça, c'est dramatique.
C'est surtout le charbon, puisque le gaz
avec le charbon passé à Bruxelles, on peut le faire super bien.
Je précise qu'on parle de renouvelables, mais que le Sénat a voté cet après-midi le projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Vous savez, règle, texte qui enterre notamment le précédent programme sous François Hollande qui visait à réduire la part du nucléaire à 50% en 2035.
Quelle erreur stratégique, c'est aussi.
Tout ça, c'est...
Erreur stratégique.
Mais c'est des erreurs stratégiques qui sont aussi des erreurs politiques des écologistes. Et aujourd'hui, d'entendre un certain nombre de ces écologistes devenir pro-nucléaire, d'ailleurs, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais tellement tard par rapport aux dégâts qui ont été commis, qu'effectivement, mais il faut dire que ça a été une erreur commise sur tous les échiquiers politiques.
Bon.
Non, enfin, juste sur le nucléaire, le sujet, enfin, il n'est pas tant pour construire un réacteur, les procédures justement d'urbanisme ou encore le droit de l'environnement, mais c'est aussi surtout les compétences et la capacité justement de la finir à construire.
Oui. Bien sûr, mais ça c'est un grand enjeu également, bon, excuse-moi, sans vouloir être négatif, de formation. Ce qu'on appelle la destruction créatrice, ok, on veut bien détruire ailleurs et créer des nouveaux emplois, mais il faut que la main-d'œuvre suive, que la formation suive. C'est bien et malheureusement, on voit qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs, pas assez de soudeurs industriels, etc. Donc c'est là qu'est l'enjeu.
C'est bien pour ça, vous voyez EDF commencer à pousser pour qu'on prolonge la durée de vie de certains acteurs jusqu'à 80 ans, rendez-vous compte. Alors voilà, c'est aussi ça.
Et EDF, c'est aussi pour qu'on construise effectivement de nouveaux réacteurs, pour qu'on maintienne la compétence qui est effectivement essentielle. Et il faut voir loin. À l'évidence, les politiques sur ce sujet ont du mal à voir loin.
Passionnant sujet comme toujours. Merci beaucoup messieurs, c'est terminé pour ce soir, 18h56. Merci, merci de passer nous voir.
C'est passé trop vite, comme toujours.
On va parler des retraites.
Mais il y en aura
d'autres. Il
y en aura d'autres, Bruno. J'ai la faiblesse de penser que
on en parle presque tous les soirs.
Sans problème, comme d'habitude.
Ça y est,
Bruno Coquet,
au courant.
Docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Merci Bruno. Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC Défi. Et puis Léonidas Calogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci messieurs d'être venus ce soir. 18h56, une petite pause, Audrey.
En effet, on se retrouve pour deux interviews, Guillaume.
Oui, le patron de Karma TCK Artificiel qui viendra nous voir, il sera à l'équilibre en 2027. Ouais, très optimiste pour les prochaines années. Et puis la présidente de la FNSEA.
C'est vrai, vous avez raison, Léonidas.
Et puis la présidente de la FNSEA qui viendra nous voir à 19h30 avec beaucoup de sujets à évoquer, notamment
les retraites.
Et les néonicotinoïdes.
La France nous permet de réduire notre déficit. On n'en a pas parlé, mais on a quand même...
Oui, mais vous voyez, ce matin, vous auriez entendu sur BFM Business une boîte extraordinaire dont le nom m'échappe, qui veut nourrir 10 milliards d'humains. Ce sont les grands projets de nos entrepreneurs.
C'est dire, c'est passionnant. Merci messieurs, on se retrouve dans 3 minutes. On est ensemble jusqu'à 20h.
Allez, à tout de suite.
Merci.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.